C'est l'émission Les Apatrides Anonymes en direct des studios de l'UQAM en ce jeudi 14 novembre, 18h32, pour ceux et celles qui nous écoutent en direct. Donc, Mathieu au micro à l'animation avec vous ce soir, en compagnie de mes fidèles collaborateurs et camarades. Marie-Ève, bonsoir.
Salut.
Simon, bonsoir.
Allô, allô.
Fait qu'on va alterner au micro les trois pour vous présenter plein de sujets sur des enjeux comme à l'habitude, mais c'est... pas parce que c'est une habitude que c'est toujours pareil, mais des enjeux de frontières, de racisme, d'immigration, de droits humains et plein d'autres sujets autochtones et racisme politique ce soir aussi. Donc, on va vous parler, entre autres, des actualités africaines. On va parler aussi d'immigration ici, Québec-Canada. Un bon bloc sur l'Italie et l'Espagne aussi. On va parler du génocide en cours, évidemment, au niveau local et international. Actualité autochtone dans quelques instants. L'agenda antiraciste, c'est de la musique de Valfreya, Étrant de la Hire et aussi Danny Gin. Donc, bonne émission à tout le monde. On commence. On va y aller avec des enjeux autochtones. C'est rare qu'on commence avec ça, Marie-Ève. Hein? Souvent, c'est à la fin de l'émission, mais là, on y va.
On ouvre avec du crunchy.
Du crunchy. Donc, je te passe le micro dans trois minutes et demie. Donc...
OK, top chrono.
Yeah. Je vais y aller avec la COP16 qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Les chefs autochtones des 9 pays qui partagent l'Amazonie ont uni leurs forces pour défendre la nature qui les entoure en créant le G9, une voie unifiée pour influencer les discussions mondiales en pleine COP16 sur la biodiversité qui se tenait en Colombie, comme je disais, il y a quelques temps, deux semaines à peu près. La première exigence de cette nouvelle alliance est que les gouvernements du monde entier reconnaissent que les peuples traditionnels sont les principales autorités morales pour la conservation des écosystèmes, la protection de la biodiversité et la régulation du climat. Donc, c'est des peuples du Brésil, de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie, de l'Équateur, du Venezuela, du Guyana, de la Guyane française et du Suriname qui ont lancé ce G9 de l'Amazonie autochtone. Il s'agit d'une coalition régionale qui entend préparer un programme commun de mesures pour la nature et le climat à présenter à la COP30 sur le climat qui se déroulera en 2025 au Brésil. Il y a beaucoup de coffres, là, faut pas trop se mêler. Les peuples d'Amazonie demandent la conservation de la biodiversité, le respect de leurs droits territoriaux et un financement direct en reconnaissance de leur rôle de gardien de la nature. Ces peuples dénoncent régulièrement le fait que la majorité des aides internationales passent par les États ou les collectivités locales sans leur parvenir en quantité suffisante directement à eux. Les peuples amazoniens continuent de subir des persécutions, des tentatives d'effacement et sont parmi les plus vulnérables aux crises climatiques et de la biodiversité. Frappés par une sécheresse exceptionnelle, l'Amazonie a connu ces derniers mois ses pires incendies en deux décennies. Ces catastrophes s'ajoutent à la déforestation massive de l'Amazonie dans des proportions qui s'approchent d'un point de non-retour qui transformerait la plus grande forêt tropicale du monde en savane. Sinon, à la COP16 directement, enterrée par les applaudissements et les chants, la présidente de la conférence sur la biodiversité a autorisé d'un coup de marteau la création d'un groupe permanent pour les peuples autochtones et les communautés locales, une première dans l'histoire des différentes conventions des Nations unies sur l'environnement. La création de cette entité permanente doit permettre aux représentants des communautés autochtones et locales de se réunir pour coordonner leurs messages, établir les actions qu'ils estiment essentielles pour stopper le déclin de la biodiversité et ultimement tenter d'influencer les décisions, mais surtout faire avancer les dossiers qui les concernent. À leur tour, les représentants des communautés afro-descendantes se sont réjouis après que les délégués à la COP16 eurent accepté de les inclure explicitement pour la première fois dans le texte de la Convention. En vertu de cette proposition portée par la Colombie et le Brésil, la Convention reconnaît désormais le rôle crucial des initiatives et des actions menées par les personnes d'ascendance africaine, surtout en Amérique latine, on s'entend. Concrètement, cette mention doit permettre à ces communautés d'avoir accès au financement mobilisé par les 196 pays de la Convention de se faire entendre davantage lors de la prochaine COP sur la biodiversité.
Et on parle toujours de la COP30.
Oui, content parce qu'actuellement, la COP29 se passe à Bakou. Peut-être entendu parler, c'est ces jours-ci,
ouais.
Dans un état pétrolier autoritaire. Tout va très bien pour les COP de l'ONU. mais la COP30 va être au Brésil. Et la COP16, c'est des grosses avancées pour les Autochtones et les communautés afro-descendantes. Et il y avait eu la rencontre avant du G9, comme je disais, pour préparer ça. En terminant là-dessus, Marie-Ève, je vous suggère juste de lire un article qui s'appelle COP16, les femmes autochtones, piliers de la biodiversité, du 31 octobre 2024 sur le site de Radio-Canada. C'est une entrevue avec l'une d'entre elles, Fanny Cuaro Castro, protectrice de l'Amazonie colombienne. Très belle entrevue du 31 octobre. Donc voilà, Maria, je te laisse la parole pour les actualités autochtones d'ici.
Oui, exactement. Oui. Je reviens un peu sur un sujet dont tu nous as parlé, Mathieu, le 17 à l'émission du 17 octobre.
Oui.
Tu avais parlé du bilan que faisait Kimberly Murray de son rôle d'interlocutrice spéciale indépendante pour les lieux de sépulture non marqués autochtones, près de 2 ans après sa nomination, mais aussi de ses craintes quant à la réelle volonté du gouvernement canadien de mettre en œuvre ses éventuelles recommandations. Ben là, le 28 octobre dernier, Mme Murray a déposé son rapport final, dans lequel elle affirme, entre autres, que le Canada a l'obligation légale internationale de mettre en place une commission d'enquête indépendante sur les enfants autochtones disparus et sépultures autochtones non marquées.
Oui.
Parce que, pour elle, ben, le Canada a failli à ses responsabilités. Parce que, bon, qu'ils aient été envoyés dans des pensionnats, dans des hôpitaux, des sanatoriums, des établissements psychiatriques, peu importe le type d'établissement, ces enfants-là sont morts alors qu'ils étaient sous la garde de l'État canadien.
Ouais.
Et donc, elle exhorte le gouvernement fédéral à honorer ses obligations morales, légales et éthiques conformément à la fois à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux lois autochtones aussi, aux lois internationales sur les droits de la personne et aux lois pénales. En plus de la nécessité de créer une commission d'enquête, Mme Murray arrive à 2 grandes conclusions. D'abord, les enfants morts et enterrés dans les pensionnats sont pas portés disparus, mais ont en fait été victimes de disparitions forcées de la part de l'État canadien.
Mm-hmm.
C'est 2 choses complètement différentes.
Tout à fait, ouais.
Et deuxième chose, c'est qu'il existe une culture de l'amnistie et de l'impunité au Canada. Madame Murray insiste aussi sur le fait que cette éventuelle commission d'enquête-là devrait être indépendante et dirigée par des Autochtones parce que elle considère que le Canada peut pas enquêter sur lui-même puisque c'est lui qui est l'auteur des crimes. Selon elle, le Canada doit élaborer un cadre de réparation dans une optique anticoloniale. Donc, au lieu de formuler des recommandations, elle a décidé de conclure son rapport en dressant une liste de 42 obligations juridiques, morales et éthiques que les gouvernements, les églises et les autres institutions doivent respecter. Parmi celles-là, il y a la souveraineté des données autochtones, la décolonisation des archives, la protection des lieux de sépulture, évidemment, l'adoption d'une loi fédérale sur le droit à la vérité, le rapatriement des terres, la guérison et les soins de santé fondés sur la résilience, la présentation d'excuses, l'adoption de lois sur la commémoration nationale et la mémoire, ainsi que la modification du code criminel. Donc, gros programme.
Oui, oui. Mais comme tu dis, des obligations, non pas des recommandations.
Exact.
Ouais. Ouais.
Tu nous avais aussi parlé, Mathieu, du fait que les pouvoirs de Mme Murray étaient très limités dans le cadre de son mandat. Là, et donc, elle pense que la commission d'enquête devrait avoir des pouvoirs contraignants, comme celui de forcer la production de documents, plus spécifiquement des documents d'archives, mais aussi le pouvoir de pénétrer dans les propriétés privées et les terres de la couronne pour pouvoir mener les enquêtes et les recherches là, qui s'imposent sur le terrain. Si on regarde les réactions, comment a été accueilli le rapport, ben, on s'en doute, le rapport a été salué par les leaders autochtones. Ce qu'ils en ont surtout retenu, c'est l'obligation qui incite le gouvernement fédéral à nommer un groupe d'experts pour étudier la possibilité de restituer la propriété des pensionnats, mais aussi le renvoi des disparitions forcées d'enfants devant la Cour pénale internationale.
Ah oui, hein?
Donc, sur cette question-là spécifiquement, il y a différents experts qui se sont prononcés. Il y a Mark Kersten, qui est professeur adjoint à l'Université de Fraser Valley et qui, lui, se spécialise en droit pénal international puis qui a aussi travaillé sur le rapport de Mme Murray. Lui, ben, il estime qu'il est difficile de dire si des poursuites pourront être engagées là, pour disparition forcée parce que, jusqu'à date, il n'y a aucun tribunal international qui a jugé de crimes contre l'humanité pour disparition forcée, malgré le fait qu'elle soit vraiment fréquente. Mais il pense que les disparitions forcées d'enfants autochtones sont un cas exemplaire là, en matière de droit international et des droits de la personne. Et il y a aussi Fanny Lafontaine, qui, elle, est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits de la personne. Selon elle, le rapport de Mme Murray explique très bien comment, je la cite, « la violence passée et actuelle au Canada peut être qualifiée de génocide, de crime contre l'humanité et de dispersion forcée. »
OK. C'est assez complet comme dossier. Hein?
Je termine avec Robert, toujours dans les réactions, là, Robert ouais. Falcon Ouellette, qui lui est un anthropologue originaire de la nation Cree Red Pheasant en Saskatchewan. Il a publié une chronique dans Espace autochtone, site de Radio-Canada. Lui, il souligne que les questions autochtones sont réparties en vraiment plusieurs institutions et paliers de gouvernement, entre ouais, autres, là, et tout. Ouais. Et que, donc, les responsabilités sont diluées et que ça fait que la réconciliation reste fragmentée et désorganisée. Puis ça, il pense que ça peut nuire à la mise en œuvre des obligations là, énumérées dans le rapport de Mme Murray. Et donc, lui, pour éviter ça, ce qu'il propose, c'est que le Canada crée un nouveau ministère dédié spécifiquement à la réconciliation. Ce ministère-là travaillerait avec tous les secteurs, là, universités, écoles, gouvernements provinciaux, municipaux, etc., pour garantir que les efforts soient cohérents et durables vers la réconciliation. Puis il recommande aussi que les sites des anciens pensionnats soient préservés et non détruits pour abandonner, pour pouvoir honorer la mémoire des enfants disparus et aussi des survivants, un peu là, comme les mémoriaux de l'Holocauste en Allemagne puis en Pologne ont été conservés là, comme rappel des atrocités du passé. Pour lui, ben, visiter ces sites-là permettrait de susciter la réflexion puis une compréhension plus concrète des souffrances que ces écoles-là ont infligées aux communautés autochtones. Puis ça permettrait aussi de combattre le déni, pour ne pas dire le négationnisme des sépultures autochtones non marquées. Fait que c'était un gros dossier. On a dit actualité au pluriel.
Ben
mais...
oui, finalement, quand je t'ai dit tantôt, c'était un gros dossier, c'est ça? Ouais,
c'est
assez
ça.
Complet.
C'est ça.
Ben merci pour cette mise à jour.
Pas les nouvelles qui manquaient, mais bon, j'ai décidé d'approfondir celui-là.
Suite à ce que j'avais parlé il y a un mois. Donc, ben merci beaucoup, Marie-Ève. On va y aller avec quelques notes de musique et je vous reviens après sur les enjeux Palestine, Israël qui sont rendus ici depuis longtemps. La rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 s'est adressée au gouvernement canadien pour lui rappeler ses obligations en matière de droit international. En visite au pays la semaine passée, Francesca Albanese a présenté son plus récent rapport intitulé « L'effacement colonial par le génocide », dénonçant le premier génocide colonial diffusé en direct qui a lieu à l'égard du peuple palestinien. Je la cite, « La violence qu'Israël déchaîne contre les Palestiniens depuis l'après 7 octobre ne surgit pas du néant, mais s'inscrit dans une campagne orchestrée intentionnellement au niveau de l'État d'Israël pour provoquer systématiquement le déplacement forcé et le remplacement à long terme des Palestiniens », écrit dans son rapport Maître Albanese.
On a essayé de canceller assez fortement, d'ailleurs.
Oui, j'y arrive, Simon, j'y arrive. Oui. Elle a invité le gouvernement fédéral à faire un audit afin d'identifier toute forme de collaboration avec Israël, que ce soit au niveau militaire, économique, politique, culturel et autres. Il est extrêmement troublant de voir des États membres de l'ONU pontifier, remettre en question et obscurcir le sens du droit international et déshumaniser les victimes de ces 12 derniers mois, a-t-elle ajouté. La conférence de presse organisée par la Ligue des droits et la Coalition du Québec Urgence Palestine a également eu comme objectif d'interpeller les gouvernements canadiens et québécois concernant leur position à l'égard du gouvernement Netanyahou. Madame Albanese s'est rendue dans d'autres villes canadiennes aussi lors de sa tournée. Elle a indiqué que ni Ottawa ni Québec ne se sont manifestés pour la rencontrer lors de sa visite et elle s'est dit ouverte pourtant à les rencontrer. Les deux gouvernements l'ont même pas.
C'est quand même la rapporteure spéciale
de l'ONU. Sinon, le lendemain, Simon, des étudiants juifs ont tenté d'empêcher sa venue à l'université McGill.
C'est ce dont à quoi je faisais référence.
Ben oui, un regroupement d'étudiants et d'organisations juives s'était opposé à la tenue de l'événement qui enverrait le signal que l'université supporte la discrimination et l'hostilité envers des étudiants ayant certaines opinions religieuses ou politiques. Dans une mise en demeure envoyée à la direction de l'Université McGill, ils intimaient l'administration d'empêcher Mme Albanese banaliser de promouvoir des discours haineux sur le campus.
Ben, franchement.
Elle avait été invitée par des organisations comme Voix juive indépendante, Law Student for Palestine at McGill. Donc, finalement...
De dangereux radicaux.
Dangereux radicaux institutionnels et juifs en particulier. Non-sionistes. Fait que finalement, l'événement, McGill a essayé de le mettre le soir, seulement en ligne. Ils ont changé la salle. Fait que finalement, ça a eu lieu à l'association étudiante devant 250 personnes. Mais disons que ça a été un aria pour Mme Albanese. Finalement, là, pour finir sur Mme Albanese, Israël a réclamé sa démission au lendemain de son rapport. Je cite l'ambassadeur à l'ONU d'Israël. Une nouvelle fois, l'ONU a déroulé le tapis rouge pour l'une des personnalités les plus antisémites de l'histoire moderne. A-t-il dit, réclamant la démission de la juriste italienne.
Rien de moins.
Si vous voulez l'entendre en entrevue, elle a fait une entrevue d'une demi-heure avec le média La Converse. C'est du 6 novembre, puis elle parle très bien français en plus, fait que c'est une entrevue très intéressante. Sinon, mon autre sujet, c'est une lettre d'un certain Roger Waters. Je vous lis des extraits. Elle s'appelle « Laissez les enfants tranquilles ». Ça commence comme suit. « Sylvan Adams, un milliardaire sioniste loufoque, inconnu en dehors du petit cercle des bailleurs de fonds de l'Université McGill, pense qu'il peut réunir Pink Floyd pour promouvoir et célébrer le génocide du peuple palestinien. Il essaie de faire en sorte que Pink Floyd se reforme pour donner un concert en Israël dans l'un des kibbutz touchés par l'attaque du 7 octobre 2023. » Monsieur Adams s'empresse d'avouer que ce plan n'inclurait pas le cinglé de Roger Waters. En réponse à la pression autoritaire de Monsieur Adams, j'ai signé une lettre adressée au président de McGill que l'Institut canadien de politique étrangère et Just Peace Advocate ont transformée en campagne sur Internet. Donc, c'est une lettre donc de Roger Waters sur laquelle je suis tombé par hasard. Et sinon, peut-être vous dire qu'il y a un débat actuellement à la Chambre des communes sur la reconnaissance de l'État palestinien. Oui, oui. C'est le groupe canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient qui nous informe de ça. Selon la Convention de Montevideo, il y a des critères et des États. Il y en a 140 qui ont déjà reconnu la Palestine, dont récemment l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Oui. Et donc, on nous invite à envoyer un courriel aux membres du Comité des affaires étrangères du Parlement par le biais du site de CJPME, pardon, pour encourager les députés à voter une résolution qui sera ensuite débattue à la Chambre des communes en général. Mais c'est assez intéressant de voir que ça se porte tout ça en même temps. C'est flyé. Et dernière chose, pour sur le terrain, ça va extrêmement mal dans le nord de la bande de Gaza. C'est carrément encerclé, enclavé, affamé, détruit. Et il y a un article de solidaire.org, un syndicat en France assez intéressant qui s'appelle Jabalaya, qui est un des camps de réfugiés, l'enfer sur terre, qui résume un petit peu la situation actuellement en dehors des dépêches officielles des grands médias. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va y aller avec de la musique. Je vous en parle au retour. Il s'appelle Danny Gin.
This world shall not pay. Starbucks, McDonald's, et tous les kiosques. Smisho et Arno, quand ça qui tue. Papa Jean, Domino, et Pizza Hut. Et Eze, Vanaku, et LB. Et Puma, et Salah, et Moulumat. Et Subway, Kentucky, et Kito Kat. Et Boca, et Cola, et Sukulait. Et Isla, le génocide au Katan Kigyo. Fuck you Biden and fuck all who support them. Fuck. We said don't kill, but you guys all deny it. We desire peace, so we are all united. And we boycott Israel, Imperial United. Domino, and Pizza Hut, and Eze, Vanaku, and LB, and Puma, and Zala, and Volumat, and Subway, Kentucky, and Kito Kat, and Coca, and Cola, and Superlight, and Isla, the genocide of Katan Kigyo. Miatasu Atali, Nihon Kailai, Iyama Akali, Mesoto Dema Bakali, Terroristo Yabawali, Dabsuta Hashin, Biden no Inali, Kidash no Yo no Nai Sashin, Zushiki Yoto, AKA Shionisuto, Zizuma wo, Murikiri Awaseyoto, Zurikiro Gyako Kanokosu Ome wo, Lekishi no Highlights, Orela Heiwa no Kane Narasu no So Boycott Hi-Hat, Starbucks, McDonald's, et Tsuji Kyoto, Smisho, et Arno, Kawasaki Jugo, Papa John, Domino, et Pizza Hut, et Eze, Vanaku, et LB, et Puma, et Zara, et Volumat,
Danny Jin, il s'est nommé lui-même, la pièce Boycott. C'est un Japonais de 19 ans, d'origine lointaine palestinienne. Il n'y a pas d'album, c'est un tout nouvel artiste. Ça circule sur les... la vidéo circule beaucoup en ligne. Ça a été filmé dans une manif de à peu près 5000 personnes à Tokyo l'été dernier. Donc, c'est assez vivant. Si tu avais l'occasion d'aller voir le clip Danny Jin. Jin, c'est J-I-N, la pièce Boycott. Donc, élections dans le monde, on commence avec l'Indonésie, hein, mesdames et messieurs, on n'en parle pas pour ce grand pays, on n'en parle pas souvent. L'ex-général Prabowo Subianto est devenu le 20 octobre le 8e président de l'histoire de l'Indonésie moderne, dans la continuité de son prédécesseur, âgé de 73 ans. L'ex-ministre de la Défense a prêté serment succédant à Joko Widodo, surnommé Jokowi, s'appuyant sur une fortune confortable et sur le choix stratégique du jeune fils de Jokowi, comme colistier, Subianto est finalement parvenu à la magistrature suprême après 15 ans passés à chercher à accéder au pouvoir à force de se présenter, puis ça marchait pas. L'ex-militaire hérite de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et des plus grandes réserves mondiales de nickel. L'arrivée de Subianto ne manque pas d'inquiéter certains groupes de défense des droits de la personne qui rappellent son passé controversé et redoutent une possible remise en question des avancées démocratiques. En tant que chef des forces spéciales, il a été accusé par des ONG d'avoir ordonné l'enlèvement de militants pro-démocratie dans les années 90 à la fin du régime de Suharto. Démis de ses fonctions militaires en 98 en raison de ses disparitions, Subianto a toujours rejeté ces accusations et n'a jamais été inculpé. Longtemps privé de visa par les États-Unis et l'Australie en raison de ses allégations, il s'est attiré de nouveau les bonnes grâces en tant que ministre de la Défense sous l'ancien président et a fait de nombreuses visites à l'étranger à ce titre, y compris à Washington et à Canberra pour signer des accords de sécurité. Donc ça s'annonce bien pour l'Indonésie.
Ouais, on sait pas trop son agenda. Est-ce qu'on a une idée? Ou...
De développement économique. Okay, let's go. Là.
Avec le nickel.
Avec le nickel,
ça,
entre autres.
Ça va driller, là.
C'est ça, j'allais dire. Drill, baby, drill.
Ouais, exactement. C'est ça. Un ex-militaire à 73 ans. Moi, j'adore ça. sinon, des dizaines de milliers de Géorgiens ont manifesté fin octobre à Tbilissi avec l'opposition pro-européenne pour dénoncer le résultat de législatives dites volées, selon eux, par le parti au pouvoir qu'ils accusent d'orienter le pays vers Moscou. Et Bruxelles et Washington ont critiqué le déroulement des élections, évidemment. Voix européenne discordante, le premier ministre hongrois Viktor Orban s'est quant à lui rendu le même jour en Géorgie pour y soutenir le gouvernement, un pied de nez à l'Union européenne dont son pays assure la présidence tournante en plus actuellement quand même. Dirigé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili et gouvernant la Géorgie depuis 2012, le parti Rêve géorgien est accusé par l'opposition de s'être engagé dans une dérive autoritaire pro-russe et d'éloigner cette ancienne république soviétique de la perspective d'une adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Un des leaders de l'opposition a affirmé que les partis de la coalition refuseraient de siéger dans un parlement illégitime et réclamaient une nouvelle élection sous surveillance internationale. Je cite Orban, il est toujours trop hot. Oui, mais la Géorgie est un État conservateur, chrétien et pro-européen. À la place de les sermonner, elle a besoin de notre soutien dans son chemin européen. La Géorgie a été secouée en mai par de grandes manifestations contre une loi sur l'influence étrangère inspirée d'une législation russe sur les agents d'étrangers, mais cette mobilisation n'a pas suffi à faire abandonner ce texte.
Qui vise médias indépendants, observateurs des droits de la personne.
Militaires, etc. Rapidement, en Moldavie, deux semaines après la victoire de justice du oui au référendum sur l'Union européenne, la Moldavie a confirmé le 3 novembre sa trajectoire européenne en reconduisant sa présidente Maia Sandu à l'issue d'une élection tendue sur fond de soupçons d'ingérence russe. La candidate de 52 ans a recueilli 55% des voix contre 45 pour Alexander Stoyanoglu, ex-procureur de 57 ans soutenu par les socialistes pro-russes. Donc, je m'arrête ici. Ça fait que dans ce cas-ci, il y a eu un référendum sur l'Union européenne, sur l'adhésion. Ça a passé à 50,1%.
Oh là, okay.
Elle a été réélue, mais c'est le Caucase, c'est la sphère d'influence de la Russie. C'est intéressant à suivre ce qui se passe donc dans ce coin-là.
Ça vivote entre les deux, entre l'Est et l'Ouest, là, souvent.
Exactement, exactement. Simon, tu nous parles on vient en Europe occidentale.
Dans des grandes démocraties.
Oui, oui. Des grandes civilisations, oui.
Je vais vous parler de l'Italie, plus de point de vue politique, législatif, mais je vais commencer avec l'Espagne, vraiment d'un point de vue plus migratoire, terrain, maritime, les traversées meurtrières, les Baléares, les Canaries. Je vais commencer sur le continent, à Madrid, où la mort dans un centre d'hébergement transitoire de Diallo Sissoko, qui est un migrant malien de 21 ans, a provoqué une onde de choc à travers le pays, au point que 26 associations, autant locales qu'internationales, se sont regroupées sous le vocable Yo si atiendo, ou en français je participe, pour réclamer une réforme des soins de santé offerts dans les centres d'hébergement temporaires, soins qui sont jugés inadéquat, insuffisant, quand c'est pas carrément inexistant. Le jeune Diallo se plaignait, je vais remettre en contexte son cas particulier, il se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs abdominales insupportables. Et comme paraît-il, c'est pas mal la norme, on fait tout pour éviter l'envoi d'un migrant à l'hôpital parce que ça coûte trop cher.
Mm-hmm.
Il avait finalement une embolie pulmonaire, ce qui nécessite normalement un traitement par anticoagulant, rien de très compliqué. Parfois une hospitalisation d'une journée ou deux, mais presque tout le monde en guérit, donc on juge que le décès de ce pauvre migrant était complètement évitable.
Ouais.
Donc voilà, nouvelle campagne Yo Si Atiendo à suivre partout à travers l'Espagne parce que les soins de santé doivent être améliorés pas seulement à Madrid, mais sur tout le territoire continental et aussi bien sûr dans les avant-postes migratoires, Ceuta, Melilla, les archipels des Baléares et des Canaries, où les mêmes problèmes sont constatés depuis des années, parfois en pire. Manque d'infirmières, de médecins, d'appareils médicaux, de médicaments, barrières de la langue et aussi, assez fondamental, très peu d'examens médicaux à l'arrivée, ou seulement ce qui est très évident est traité, comme l'hypothermie, la déshydratation, la dénutrition ou les blessures qui sont évidentes. Mais on en fait trop peu pour détecter les maux dont souffrent les migrants qui sont moins visibles. Donc j'imagine qu'InfoMigrants nous tiendra au courant des développements de cette campagne dans les prochains mois. Aux Canaries, je crois que c'est là que la situation est la plus catastrophique. Pardon, on a des infrastructures en santé destinées spécifiquement aux mineurs isolés, qui sont d'une capacité de 2000 personnes, et à l'heure actuelle, 6000 mineurs isolés occupent tant bien que mal ces places beaucoup trop limitées. L'UNICEF parle de sursaturation et de droits des enfants qui non respectés. Le gouvernement central a essayé d'amender la loi sur l'immigration pour forcer le déplacement des mineurs dans les hôpitaux de l'Espagne continentale, car la capacité aux Canaries ou ailleurs excède 150%, c'est la norme qu'on souhaitait fixer. La proposition ainsi que les euros, les moyens qui devaient l'accompagner, ont été bloqués par certains députés conservateurs au Parlement de Madrid. Et il y a aussi eu quelques gouvernements régionaux qui veulent rien savoir d'accueillir ces jeunes Africains chez eux et qui n'hésitent pas, comme d'habitude, à user de populisme et de démagogie pour s'assurer que leur électorat reste bien hostile à toute proposition de ce genre. De l'Atlantique, on passe à la Méditerranée, toujours en Espagne. Nouveau record d'arrivée aux îles Baléares, on n'en parle pas souvent. Entre les côtes espagnoles et algériennes, les îles d'Ibiza, qui sont pas juste le party, de Majorque, je pense qu'on prononce, sur ce qu'on appelle maintenant la route migratoire algérienne, empruntée surtout par des migrants d'origine algérienne qui fuient la pauvreté, 36% de chômage chez les jeunes en Algérie.
Mm-hmm.
Et ils sont parfois accompagnés de quelques rares migrants subsahariens et même du Proche-Orient, mais c'est principalement des ressortissants algériens. On est pour l'instant très loin des chiffres des routes comme les Canaries ou entre la Tunisie et Lampedusa, par exemple, mais la progression est très nette. Total en 2023 de 2200 arrivées, en 2024 jusqu'à maintenant 4000 personnes, donc on devrait finir l'année actuelle en doublant les chiffres de la précédente. En 2023, on avait aussi doublé les chiffres de 2022, donc 100% d'augmentation deux années de suite sur la route algérienne de la Méditerranée. Madrid aimerait bien s'entendre avec Alger sur un pacte migratoire de rétention des migrants pour leur refoulement vers le continent africain, mais les relations diplomatiques entre les deux pays sont toujours aussi froides, ce qui en fait une route maritime beaucoup moins surveillée que les autres. Puis elle est relativement nouvelle aussi, donc voilà.
Nouvelle?
Elle n'a pas été beaucoup empruntée dans l'histoire.
OK.
Il n'y a pas de réseau de passeurs ou presque, en tout cas c'est des balbutiements. On pense qu'avec la surveillance, évidemment, accrue des autres routes migratoires, elle va augmenter dans les prochaines années.
OK.
Avant de passer à l'Italie, suggestion de lecture, une entrevue menée par InfoMigrants avec Ali Zoubaïdi, spécialiste de l'immigration basée au Maroc. Le titre « De plus en plus de jeunes filles mineures rejoignent Ceuta à la nage quand l'immigration vers l'Espagne se féminise ». Monsieur Zoubaïdi nous apprend, entre autres, que cette nouvelle tendance aurait, semble-t-il, été initiée par une influenceuse marocaine de 19 ans. Qui a fait de sa propre traversée à la nage une vidéo virale où elle apparaît à son arrivée sur le rivage espagnol, bien maquillée, souriante et l'air pétante de santé. Pourtant, la traversée est courte, mais quand même très dangereuse, et depuis la publication du vidéo, on déplore beaucoup de disparitions de mineurs marocaines qui partent seules ou en petits groupes, sans intermédiaire, en s'organisant sur les réseaux sociaux, en ayant à débourser que pour quelques bouées ou gilets de sauvetage. Même pas d'embarcation, là, c'est à la nage carrément. En plus du risque de mourir en mer, la vidéo très glamour ne mentionne pas les dangers une fois arrivée dans l'enclave espagnole où elle ne parle même pas la langue, comme traite humaine, exploitation, vol, pédocriminalité, etc. Alors, je ne sais pas si on exagère l'importance de cette nouvelle tendance, mais Ali Zubaydi, dans l'entrevue, parle carrément de villages marocains qui sont en train de se vider de leurs jeunes filles.
Ah oui, hein?
Oui, peut-être qu'il essaie un peu de mettre l'emphase sur le phénomène, pour le mettre en lumière.
Peut-être que, oui, tout à fait, que c'est pas, peut-être pas aussi pire que ça, mais oui.
Mais que c'est un nouveau phénomène qu'on observe et qui prend quand même de l'importance. On passe à l'Italie, nouveau bras de fer entre le gouvernement de Giorgia Meloni et, comme ça arrive assez souvent, son propre système judiciaire.
Ben oui, elle aime ça.
Elle aime ça chicaner, je pense, en général. Donc, il y a des juges d'un tribunal de Bologne qui contestent la définition de pays sûrs telle qu'exprimée dans un décret publié fin octobre qui comprend une nouvelle liste de 19 pays jugés sécuritaires par ce gouvernement d'extrême droite, ce qui lui permet de rejeter presque automatiquement les demandes d'asile des migrants qui proviennent des pays qui sont sur la liste. Pour comprendre la sensibilité du débat actuel, il faut dire que les renvois de demandeurs d'asile vers les camps de détention en Albanie dépendent entièrement de cette liste, puisque ce sont les ressortissants des 19 pays qui la composent qu'on veut envoyer dans ces tout nouveaux camps gérés en sous-traitance. Il y a d'ailleurs eu des ressortissants du Bangladesh et de l'Égypte, dont des mineurs parmi les premiers déjà installés dans les nouveaux camps, qui ont été redéplacés vers l'Italie deux fois plutôt qu'une en raison de décisions judiciaires, alors qu'on en est au tout début du processus, provoquant plusieurs crises de pancetta au sein de la classe politique italienne.
Okay.
Et probablement aussi la consternation de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui saluait justement la belle créativité italienne dans la gestion des demandeurs d'asile. Même Elon Musk s'en est mêlé, demandant au juge de...
Non.
C'est une belle ingérence étrangère qui, celle-là, n'a pas été dénoncée par Giorgia Meloni. Okay. Il demandait au juge d'être congédié, rien de moins.
Ah oui, c'est vrai.
Ils sont toujours là, ils nous rappellent des principes fondamentaux, comme c'est pas possible de déclarer des pays entiers comme étant sûrs, surtout quand on a des preuves que des individus ou des groupes ciblés, ils sont persécutés, qu'on soit en guerre ou non. On nous rappelle aussi que les listes des pays dits sûrs sont très disparates d'un État européen à un autre, donc finalement que ça signifie pas grand-chose.
Ben oui.
Et qu'il faut donc revenir aux évaluations individuelles pour chaque demande d'asile et non seulement se fier à la citoyenneté de la personne avant de la déporter. Donc, ça s'en va. La magistrature italienne a demandé à la Cour européenne de justice de trancher, jugement qui sera beaucoup suivi par la plupart des capitales européennes qui sont tentées par la sous-traitance dans d'autres pays européens, Amsterdam, Vienne, Paris.
C'est encouragé par Mme
Van der Leyen. C'est ça, il faut connaître le phrasé, la musicalité dans le nom.
Oui, elle a beaucoup encouragé ça déjà, récemment. Puis, il y a des pays qui le font déjà, mais les pays sûrs, ça, on a connu ça au Canada aussi. C'est une belle attrape. Donc, mesdames et messieurs, on va écouter quelques notes de musique et ensuite, je vous parle de mes préférés, le Parti québécois.
Oh!
Un peu de citation xénophobe de nos épouvantails préférés. Des seuils astronomiques d'immigration peuvent nuire au taux de natalité, selon le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Deux facteurs déterminants sur le taux de natalité sont le logement et le niveau de service, particulièrement les places en garderie. Je le cite, c'est relié car si nos seuils d'immigration sont trop élevés, il n'y a pas de logement, le logement coûte trop cher, les gens sont étouffés au niveau du paiement, blablabla. Est-ce qu'ils vont prendre la décision d'avoir un enfant ou un enfant de plus? Tout ça est relié.
Et c'est le grand remplacement. Hein,
exactement. T'as-tu compris, Simon? Donc, le PQ, fin octobre, a déposé son plan visant à réduire de manière substantielle l'immigration au Québec. Il propose notamment de réduire le nombre de résidents non permanents pour le faire passer de 600 000 à 250 000-300 000 après 4 ans. Le chef péquiste veut ramener le nombre d'étudiants étrangers de 5 à 50 000. Il y en a 124 000 actuellement. Et décréter un moratoire de 4 ans sur l'immigration économique permanente venant de l'extérieur du Québec. Et même en plus, on parle de ramener le nombre de travailleurs étrangers temporaires établis au Québec à 40 000 alors qu'il y en a environ 270 000 actuellement. Il propose aussi de miser sur la robotisation pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et remplacer l'immigration temporaire dans les champs et dans les usines. D'ailleurs, il y a un article du journal Les Affaires du 5 novembre qui s'appelle...
ta lecture préférée.
Oui, que j'ai trouvé intéressant. La vie d'un travailleur immigrant ne vaut rien, selon Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est le titre de l'article. Et je vous dis deux extraits rapidement. Pour Plamondon, la survie de l'humanité ne passe pas par l'humain, mais bien par des robots. Il croit que supprimer des postes, retourner les gens dans leur pays et fermer les frontières sont les moyens à privilégier pour pallier le manque de main-d'œuvre. Pour atteindre son objectif et pour combler les besoins de main-d'œuvre, il veut s'inspirer de la Corée du Sud, du Japon et de l'Allemagne. Ces pays sont tous frappés par le manque de main-d'œuvre, ont investi massivement dans la robotisation et ça n'a pas marché. Et sont des pays qui ont beaucoup, jamais eu d'immigration, qui ont beaucoup réduit l'immigration dans les dernières années. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a un article encore plus scientifique, je dirais, de l'IRIS, de Philippe Urteau, qui s'appelle « Logement, immigration et natalité, le monde imaginaire de PSPP ». Ça date du 31 octobre. Et Simon, est-ce que tu me laisses finir avec deux petites citations courtes?
C'est toi l'animateur, donc.
C'est vrai, hein? C'est moi qui décide. Donc, il ne faudrait pas qu'on voit en plus une arrivée massive d'immigrants qui viennent via les États-Unis, parce que ça pourrait vraiment déséquilibrer le marché de l'emploi. Qui a dit ça?
C'est Legault, j'imagine.
François Legault. Ben oui. Et l'autre, l'immigration est aux normes des raisons derrière l'explosion des signalements à la DPJ, qui n'a toutefois pas de chiffres à l'appui pour appuyer cette déclaration. Le ministre Lionel Carman de la CAQ. Donc,
nos deux, sont toutes meilleures.
Ils sont bons, le PQ puis la CAQ, hein? Ils sont vraiment bons. Donc, Simon?
Oui, je suis là.
Tu poursuis dans la même veine, hein?
On reste au Québec, donc je reviendrai pas sur les abolitions de programmes de francisation de la part d'un gouvernement qui se dit le grand défenseur du français. Je veux parler de le regroupement des organismes en francisation du Québec qui pilotait un projet pilote d'écrivain public qu'il finançait d'ailleurs, qui maintenant, faute de financement du gouvernement provincial, est suspendu indéfiniment, mais on peut penser aboli parce que... Enfin, on verra.
Oui, c'est ça. C'est inquiétant. Ouais.
Mais c'était un service qui était très apprécié, très utile pour les personnes qui ne maîtrisent pas encore complètement le français ou qui, oui, le maîtrisent un peu ou même plutôt bien, mais qui ne connaissent pas parfaitement leurs droits, qui doivent composer avec une bureaucratie parfois complexe, des propriétaires véreux, des employeurs qui abusent. Donc, ces écrivains publics servaient non seulement à rédiger, traduire, expliquer, mais par extension... ou parfois par simple vocation à aider, souvent en dernier recours, des personnes immigrantes découragées qui ont frappé à toutes les portes et qui savent plus vers qui se tourner. Portrait touchant dans laconverse.com sous le titre « Écrivain public, un soutien retiré aux non-francophones » de ces personnes en général très humaines qui œuvrent dans les organismes communautaires, dans les bibliothèques, qui sont souvent des retraités et qui perdent subitement ce projet pilote qui structurait et qui permettait leur pratique. Sinon, du côté de l'immigration, la grosse nouvelle récente, c'est le gel par la CAQ de deux programmes d'immigration permanents. Encore une fois, sans fournir de données, d'études, ce sont des décisions, comme d'habitude, entièrement arbitraires, basées sur des émotions ou de l'abstrait, mais dont les conséquences, elles, n'auront rien d'abstrait, puisque ça place dans l'incertitude des milliers de personnes qui jouent déjà le jeu très compliqué de l'immigration. Les deux programmes concernés sont le volet diplômé du PEC, le programme de l'expérience, la belle expérience québécoise,
oui, qu'on connaît, oui.
Ainsi que le PRTQ, le programme régulier des travailleurs qualifiés, et par conséquent le portail Arima, la petite création de la CAQ elle-même qui est sabordée par son géniteur. Donc, aucune demande reçue à partir du 31 octobre dans ces deux catégories ne va déboucher sur l'émission d'un certificat de sélection du Québec. On nous assure que le traitement des demandes reçues avant le 31 octobre se poursuit. Donc, ça peut sembler rassurant, sauf que ce gel, dans le cadre d'un processus administratif parfois sur plusieurs années, impliquant deux paliers de gouvernement, ça vient mettre en péril la viabilité ou l'éligibilité de certains dossiers, dont chaque étape successive implique des coûts, des délais et toutes sortes d'exigences, hein, ce qui est probablement considéré comme des externalités par ce gouvernement, puisque sa seule obsession, ce sont les chiffres. C'est de réduire les seuils pour pouvoir dire à sa base électorale « Regardez, on a baissé l'immigration pour tomber la frontière ». Donc, je ne sais pas quel ministre j'imitais maintenant. Mais...
Ben moi, je pense que tu imitais encore PSPP. Là. Tu trompais de parti.
Ah non, il y a un ton un petit peu plus comme ça. Là.
Oui, oui.
Donc, la CAQ est une abonnée au volte-face. On est habitué, mais pas juste en immigration, dans tous les domaines. Ce qu'on craint, par contre, avec ce nouveau camouflet, c'est que des gens qui pourraient se tourner vers d'autres catégories, comme la demande d'asile, alors qu'ils sont en processus déjà bien avancé dans un programme permanent. Ou encore, on pourrait voir plusieurs francophones, on le voit déjà, qui vont déménager dans d'autres provinces. On envisage aussi la possibilité que certaines personnes dont les démarches précédentes avaient tout juste mené au programme qui viennent d'être gelées se retrouvent dans un flou juridique qui pourrait même mener à la clandestinité ou à la rue, comme on l'a vu avec les récentes restrictions imposées aux travailleurs temporaires. De manière beaucoup plus concrète, ce qu'on soupçonne, c'est qu'on cherche à ce qu'une plus grande part des résidents permanents soient sélectionnés à partir du bassin, entre guillemets, des immigrants temporaires, raison pour laquelle on saboterait de plus en plus, bien, c'est un début, mais on saboterait éventuellement de plus en plus les programmes permanents. Procéder ainsi donnerait plus de contrôle au gouvernement sur qui travaille, qui s'intègre, qui apprend le français, qui a un meilleur revenu. Ça lui coûterait moins cher, ça engendre un coût humain, par contre, qui est beaucoup plus élevé pour les candidats qui, pendant leur période temporaire, ou si je vais être cynique, de probation, ils seraient, là, on en a parlé souvent, dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité. Il faut souligner le paradoxe, là. La plupart des gens affectés par ces réductions ou ces gels de programme, elles sont déjà sur le territoire. Les processus sont tellement lents que la quasi-totalité occupe souvent déjà un emploi. Après, on connaît déjà la langue. Certains ont des enfants à l'école. Et en les éloignant de l'immigration permanente, on les pousse, comme je disais, soit dans la clandestinité ou on les confine dans des catégories temporaires, des catégories d'humains pourtant conspuées par Legault et ses ministres. Donc, il faut chercher la logique. En plus, le 24 octobre dernier, ce qu'on redoutait depuis longtemps a finalement été annoncé officiellement par Ottawa via Mark Mailer. Donc, non, il n'y aura pas du tout de programme de régularisation massive des personnes sans papier au Canada. Donc, question d'ajouter une bonne dose d'angoisse à tous ceux et celles qui tombent dans les mailles du système suite à toutes ces annonces choc des gouvernements qui politisent comme jamais la question de l'immigration. Il y a eu une marche le samedi 2 novembre à Montréal, je crois.
Marie-Ève et moi, on y était, oui.
C'est ça, vous y étiez, donc pour dénoncer toutes ces volte-face, donc particulièrement les...
Toutes ces coupures de programme.
Coupures de programme. Donc, pour compléter mes propos un peu éditoriaux, une autre suggestion de lecture dans Pivot.Québec, un portrait un peu plus général de notre racisme politico-institutionnel au Québec sous la plume de Judith Lefebvre, avec comme titre tout simple « Faire une crise ».
Oui.
Je vous lis un extrait. Imposition du certificat d'acceptation, interdiction du voile dans la fonction publique, interdiction aux employés de l'État de porter assistance dans une autre langue que le français, définancement des programmes de francisation, tout y passe pour rendre la vie des Néo-Québécois assez misérable pour les faire quitter la province. Tantôt, j'ai parlé de l'abolition d'un programme sur les écrivains publics. On pourrait parler des délais d'obtention de la résidence permanente beaucoup plus longs au Québec que dans les autres provinces. Les formations non reconnues, les dossiers jetés à la poubelle. Je pourrais aussi ajouter Ottawa qui embarque depuis récemment dans ce discours douteux. Depuis peu, les chances de Poilievre au fédéral, Trump élu, le PQ en tête au Québec dans les sondages, qui, à certains niveaux, promet d'être encore plus xénophobe que la CAQ. Bref, je sais pas trop comment finir mon segment. Peut-être en disant si ça va bien aller.
Oui, ça va pas bien aller. Et puis, on sait que la CAQ a sorti son plan après celui du fédéral et après celui du PQ. Donc, écoute, fallait qu'il réagisse quand même dans la course vers le trou.
Fallait se démarquer
vers le bas. On y va avec de la musique. On s'en va en Afrique bientôt. Donc, Étrange de la Hire sur les ondes de choc.ca. Le quatuor du Niger, Étreint de l'Aïr, la pièce Er Kazaman de l'album 100% Sahara Guitar, sorti en septembre dernier, il y a deux mois. C'est leur troisième album complet studio. Ils sont en 11e position du palmarès international de Choc. .ca. Marie-Ève, je te passe la parole tout de suite en Afrique.
Oui, je vous parle d'abord du Sénégal. Vous allez voir que dans mon segment, il y a des liens avec, avec le segment de Simon de tout à l'heure, particulièrement avec l'Espagne.
Ouais.
Donc, le Sénégal, où, face à l'explosion des arrivées aux Canaries depuis les côtes de ce pays ouest africain, l'Union européenne a annoncé une aide de 30 millions d'euros à Dakar.
Ben oui, Dakar, hein?
Les fonds vont être utilisés pour les secours en mer, mais on s'en doute, surtout pour prévenir les départs irréguliers. La Commission européenne finance déjà un projet de près de 6 millions d'euros pour renforcer la lutte des forces de sécurité sénégalaise contre l'immigration clandestine, les passeurs et la traite d'êtres humains. Donc, en tout, ça fait 36 millions.
Okay.
Selon Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, les nouveaux fonds vont aussi servir à sensibiliser la population sénégalaise au danger de la migration clandestine. Je la cite, « Notre principal message, c'est que nous ne voulons plus voir de tragédie en mer. » Parce que, ben, on le sait, hein, la traversée de l'Atlantique vers les Canaries est en effet très risquée. Il faut au moins 5 jours de navigation pour parcourir les pour en parcourir les 1700 kilomètres. Les naufrages sont donc nombreux. D'après l'ONG espagnole Caminando Fronteras, entre janvier et mai 2024, il y a eu plus de 4800 décès dans l'Atlantique, soit un toutes les 45 minutes.
Quand même, hein? Ouais.
Certaines embarcations ne sont, elles, ben, jamais retrouvées. Toujours d'après Caminando Fronteras, 244 embarcations ont complètement disparu sur la route des Canaries entre 2018 et 2022. Et donc, depuis le début de l'année, il y a plus de 32 800 Africains et Africaines venus, entre autres, du Sénégal et de Mauritanie qui ont débarqué dans l'archipel espagnol, soit quasiment 40 % de plus là, qu'à la même période l'année passée. À propos de la Mauritanie, justement, là aussi, l'afflux de personnes migrantes en provenance de pays du Sahel atteint des sommets. Cet exode-là vers la Mauritanie s'explique principalement par la situation sécuritaire au Sahel là, qui continue de se détériorer. Et alors qu'en Mauritanie, ben, elle est relativement stable là, par rapport au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, par exemple. Donc, concrètement, entre janvier 2023 et avril 2024, donc un peu plus d'un an, il y a plus de 95 000 nouveaux réfugiés maliens qui sont arrivés dans le pays. Donc, ça, c'est pour les Maliens seulement. Donc, au total, c'est 275 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui se trouvent actuellement en Mauritanie, selon les chiffres du HCR. Comme je disais, ben, la Mauritanie est devenue, là, ces derniers mois, un point de départ privilégié pour les migrants qui veulent se rendre en Europe. Je parlais du Sénégal, mais la Mauritanie aussi.
Ouais.
Sur les plus de 22 000 personnes qui sont arrivées aux Canaries au cours des 6 premiers mois de 2024, il y en a plus que la moitié, 13 000 qui sont partis des côtes mauritaniennes contre environ 200 personnes l'année passée. C'est une augmentation de 6 000
C'est pas des Mauritaniens, comme tu dis, nécessairement.
Non, c'est
hein,
ça. C'est ça. Okay. Et avec plus de 9 000 arrivées depuis janvier, ben les Maliens sont aujourd'hui la nationalité la plus nombreuse parmi les personnes migrantes arrivées de façon irrégulière en Espagne. Et comme pour le Sénégal, ben, l'Union européenne et l'Espagne versent des fonds à la Mauritanie pour stopper des traversées vers l'Europe. Chaque année, Madrid verse 10 millions d'euros pour la formation et l'équipement des gardes-côtes. En échange, le pays s'engage à accueillir sur le sol mauritanien les exilés entrés de manière irrégulière aux Canaries après qu'ils aient quitté le pays et aussi à bloquer les départs des embarcations. Puis l'Union européenne, elle a débloqué là, en février dernier une enveloppe de 200 millions d'euros pour les mêmes objectifs.
Oui.
Et fin août, donc plus récemment, il y a le premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui s'est rendu en Mauritanie pour signer ce qu'on appelle des mémorandums d'entente bilatéraux de migration circulaire. Dans le fond, c'est dans le but de permettre des entrées régulières sur le sol espagnol en fonction des besoins de main-d'œuvre. Ces migrations contrôlées-là sont censées cibler particulièrement les jeunes et les femmes. Puis en retour, la Mauritanie s'est engagée à durcir sa législation contre l'immigration régulière.
Bien sûr.
Je termine avec un exemple qui illustre bien la dangerosité de la traversée vers l'Europe. Le 1er novembre, il y a une pirogue en détresse disparue des radars pendant une dizaine de jours qui est finalement arrivée à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Il y a deux cadavres qui gisaient parmi les 122 rescapés sur les 500 passagers initiaux. Les autres corps ont été abandonnés en mer. Je vous refais un petit peu l'histoire. La pirogue était partie le 21 octobre de Niodor, qui est dans le sud du Sénégal. Cinq jours après son départ des côtes sénégalaises, la pirogue est tombée en panne. Donc là, les migrants ont contacté Alarm Phone, puis Caminando Fronteras, et l'alerte parallèlement à ça a été donnée au centre de sauvetage et de coordination espagnol qui a localisé le bateau. Et là, s'en est suivi un jeu de ping-pong entre les autorités de différents pays. Le centre de sauvetage espagnol a transmis la responsabilité aux forces marocaines, puisque l'embarcation se trouvait dans leurs eaux à environ 150 km des côtes marocaines et mauritanienne.
Ouais.
Le Maroc, lui, a refusé de prendre la responsabilité du sauvetage en la renvoyant à la Mauritanie, qui, elle, a considéré que l'embarcation se trouvait plutôt dans la zone de sauvetage sénégalaise. Bref, à la veille de l'arrivée de l'embarcation en Nouakchott, en Mauritanie, ben, il n'y avait plus personne qui était en contact avec avec les 150 personnes de l'embarcation. Puis personne ne savait où est-ce qu'il était. Et donc, selon l'agence de presse espagnole EFE, il y a certains navires marchands qui leur ont distribué de l'eau et de la nourriture là, en plein océan, alors qu'ils dérivaient, mais sans les secourir.
Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Ben, ils sont arrivés à Nouakchott.
OK.
Il y en a 122 sur 150
qui ont survécu.
Qui étaient là. Ouais, ouais. C'est ça, qui ont été hospitalisés, traités aussi.
Les autres, on
sait
pas. Ouais, c'est ça. Donc, les actualités d'Afrique de l'Ouest et de l'Atlantique, Marie-Ève, que tu nous as présenté aujourd'hui.
Voilà.
Merci beaucoup. L'agenda dans quelques secondes. Donc, quelques événements autour de l'Amérique latine. Tout le mois de novembre, c'est les Journées québécoises de la solidarité internationale partout au Québec, en ligne, en personne, plein d'événements. Il y a une conférence, échange avec des juristes colombiens. Le groupe s'appelle Retorno y Vida, donc Retour ou la vie. Ils seront à Québec, donc, le 17 novembre au Centre du Rocher. C'est organisé par le Centre international de solidarité ouvrière. Pour une petite description, donc, se représenter le travail important de ces défenseurs des droits dans leur région auprès des communautés aux prises avec des entreprises étrangères, très peu soucieuses des impacts de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement. Toujours dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale, un panel qui s'appelle « Lutte d'ici d'ailleurs, mobilisation pour les droits et territoires », présenté entre autres par le CEDAL, Comité des droits humains en Amérique latine. Un panel sur les luttes actuelles pour la défense des droits et des territoires, voire des militants du Chiapas, d'Amérique centrale et du Québec. Ça se passe à l'Association des travailleurs grecs du Québec sur l'avenue du Parc à Montréal, le 19 novembre, dès 18h. C'est en ligne aussi et c'est gratuit sur place. La même conférence avec les juristes colombiens qui se passe à l'UQAM, donc à Montréal, le 25 novembre à 18h, au RM 110. Hein, on est à l'UQAM, on peut nommer le local. Ça s'appelle « Résister à l'extractivisme en Colombie, complicité canadienne et solidarité internationale ». C'est présenté entre autres par le projet Accompagnement Solidarité Colombie, le PASC. Toujours Amérique latine, je finis là-dessus pour cette partie-là. Une pétition d'Amnesty International dans la foulée de la tournée des militantes autochtones équatoriennes qui sont venues au Québec il y a quelques semaines. La pétition s'appelle « Protégeons les droits des peuples autochtones en Équateur ». Et c'est pour envoyer un message à la ministre du Commerce international du Canada, Mary Hind, pour lui demander que le Canada ne signe pas l'accord de libre-échange avec l'Équateur. Donc, elle est sur le site de Amnesty International Canada-Français. Change de sujet. Deuxième rendez-vous des médias critiques de gauche. Ça se passe ce samedi 16 novembre au B7 dans Pointe-Saint-Charles à Montréal. Cet événement sera l'occasion de discuter des défis auxquels font face les médias indépendants de gauche au Québec et de réfléchir aux possibilités de collaboration entre les revues et les divers mouvements sociaux. On parle surtout de revues. Il y a 15 membres du regroupement des médias critiques de gauche qui existe depuis 2022. Donc, ils organisent l'événement. Il y a une conférence d'archives révolutionnaires. Il y a aussi un 5 à 7 d'échanges et de réseautage. Donc, ça se passe samedi, le 16 novembre. Lancement du livre « La fabrique de l'altérité, art, genre et migration » le jeudi 21 novembre, 18h, à la librairie Zone Libre à Montréal. C'est un livre sous la direction de Myriam Martineau, Rania Hanafi et Christian Rinaudot, publié aux éditions de L'Armatan. Ce livre propose une réflexion critique sur les enjeux contemporains de nos rapports à l'autre dans un monde marqué par de multiples crises. À travers une approche féministe et interculturelle, La Fabrique de l'altérité explore les inégalités et oppressions subies par les groupes racisés ou minorisés dans divers contextes, tant des Suds que des Nords. Donc, je vous rappelle, le 21 novembre,
À zone libre, deux pas d'ici.
Et je finis avec deux manifs. Bloquons l'OTAN, c'est le 22 novembre, 17h30, Place des Arts à Montréal, organisé entre autres par la Claque Montréal. Il faut savoir qu'il y a une assemblée parlementaire de l'OTAN du 22 au 25 novembre, ici même, et qu'il y a des gens qui ne sont pas très contents que l'OTAN soit en ville, surtout dans le contexte de guerre multiple actuellement. Et ben Montréal Antifasciste nous invite donc
C'est où et à quelle heure, t'as dit?
22 novembre, 17h30, à la Place des Arts.
Ah oui.
Sinon, le Montréal Antifasciste nous invite le 29 novembre à 17h au métro Monk, à Montréal, pour manifester contre la messe des morts qui récidive 8 ans plus tard en invitant plusieurs groupes NSBM, National Socialiste Black Metal, donc néo-nazi.
NSBM,
c'est dans le milieu, on dit ça, fait que quand on parle des groupes néo-nazis. Bon article sur le site de Montréal Antifasciste pour avoir plus d'informations sur l'ensemble des groupes de l'événement. Donc, 8 ans après que ça avait été annulé parce qu'il y avait des groupes néo-nazis, ils recommencent les mêmes organisateurs. Ça se passe au Théâtre Paradoxe dans Ville-et-Mort. Donc, rendez-vous le 29 novembre, 17h au Metro Monk. Et ben RIDM, Rencontre internationale documentaire de Montréal, c'est du 20 novembre au 1er décembre. J'ai pas eu le temps et j'ai pas de place pour vous faire des suggestions, mais allez sur leur site. Belle programmation, beaucoup de sujets qu'on traite à l'émission. Et vu que c'est jusqu'au 1er décembre, peut-être qu'à la prochaine émission, on aura 2-3 jours pour en parler.
Ouais.
Donc, on pourrait faire ça. Donc,
bonne idée, Mathieu.
Voilà. Donc, voilà pour l'agenda. Donc, c'est tranquillement la fin de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes quand on trouve...
Tranquillement, c'était pas si tranquille que ça.
L'émission?
Non,
on finit tranquillement, mais oui, l'agenda est assez chargé, puis j'ai pas tout sorti. C'est une grosse période, le mois de novembre, là, évidemment, autant au niveau des événements, des manifs, que des choses en ligne, des sorties de livres, etc.
C'est le Festival du monde arabe. J'ai découvert tantôt qu'il y avait aussi des conférences.
Exact.
À l'UQAM aussi.
À l'UQAM, ouais. Entre autres, un peu partout, oui, sur la Palestine. Oui, exactement. J'en ai pas parlé. Je l'avais vu passer, mais écoute.
Allez voir le site web.
Oui, c'est
Festival
ça.
Festival du
monde arabe, ça finit, je pense, en fin de semaine. Donc, ben voilà, c'était l'émission Les Apatrides Anonymes en direct sur choc.ca. Je vous rappelle que...
Vos woke favoris.
Non. Parmi vos woke favoris, il y en a tellement. Surtout à l'UQAM.
Oui, c'est ça. L'UQAM est en veille.
Sur les ondes radiophoniques communautaires et étudiantes. Donc, je vous rappelle qu'on est aussi diffusé à Radio Victoria, si c'est toujours le cas, les mercredis et samedis.
Ben ouais.
Donc, en direct sur leur bande FM. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet apatridesanonymes.info pour écouter tous les épisodes, entre autres, sur la page du site de Choc, au nom des Apatrides Anonymes aussi. Notre courriel est apatridesanonymes@resist.ca et nous avons aussi une page FB où, ces temps-ci, je mets beaucoup d'événements, entre autres, parce que c'est beaucoup l'agenda qui est là-dessus, et quelques articles européens et de d'autres pays aussi qui sont acceptés. Simon, t'avais-tu quelque chose à rajouter?
Non.
Ah, okay. Ouais,
je félicite pour cette belle émission.
Parfait. On sera donc de retour. Ça va se passer le 28 novembre, dans 2 semaines. Et l'émission devrait être en ligne normalement dans les prochaines heures ou d'ici demain, là, pour ceux et celles qui veulent la réécouter ou qui ont manqué des bouts, ou quand on parlait trop vite ou quand on avait trop de contenu.
Bon.
Etc.
L'autoflagellation.
Non, c'est plus pour faire mise en contexte.
Changement de l'auto-flattage.
L'auto-bûchage. Ouais. Donc, on va se laisser avec du black metal, pas du National Socialiste Black Metal.
Ils sont pas au Théâtre Paradoxe.
Non, ils sont pas au Théâtre Paradoxe. C'est un groupe de Montréal qui s'appelle Val Freya. Ils font du black metal symphonique, un peu def aussi sur les bars. La pièce s'appelle War Cry. C'est leur 5e album, s'appelle Dawn of Reckoning, qui est sorti en avril dernier. Et c'est l'idée à la voix par une certaine Corinne Cardinal. Donc, pour ceux qui aiment ça bien chargé, bien intense et bien rapide, vous allez être servi avec toutes sortes de voix, hein, des voix aiguës, des voix graves, Marie-Ève, toutes sortes de choses. J'ai pas de spectacle à annoncer, malheureusement. Ils vont sûrement jouer en 2025. Donc, Simon, Marie-Ève, merci beaucoup pour votre contenu d'aujourd'hui.
Merci à toi. Merci tout le monde.
Ça fait plaisir. Et puis, on se reparle.
Merci, auditeurs et auditrices, de votre écoute.
À dans deux semaines. Bonne soirée.